yes, baby.
Good. Every day.
Salut tout le monde, bienvenue sur Radio9G.ca, Eric Poulin, le musicologue avec vous, oui, pour une autre émission à cette semaine sainte qui est déjà terminée, oui, effectivement. On s'est engraissé avec du chocolat. On commence le tout avec l'excellent groupe canadien. Oui, les Mayas nous avaient dit en 2012, ça serait la fin du monde, mais finalement, ben, ils ont manqué leur coup. Mais Rush n'a pas manqué leur coup eux, avec l'album 2012, justement. Alors, effectivement, on a la petite ouverture. Et après ça, c'est la pièce de Temples of the Syrinx. Yes. Donc, voici Rush sur Radio-Nostalgie.ca. We'll be right back. Rush, bien sûr, sur RadioNostalgie.ca. Oui, 2012, The Temples of Serent. Donc, oui, effectivement, on faisait un clin d'œil au Maya, l'histoire de 2012. Bon, on connaît un petit peu la suite. Hein? Ça a été très, 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 très médiatisé. Alors, c'est ça. Et puis, un fait intéressant, c'est que Rush, c'est un des groupes les plus intelligents de l'histoire de la musique et on doit donner le crédit au défunt Neil Peart. C'est lui vraiment là, le batteur qui allait chercher les textes pour le groupe. On a tendance à croire qu'il y a beaucoup de Geddy là-dedans. Non, pas tellement. Pas tellement de Geddy. C'est comme Harold Maiden, hein? Des textes très, très, très intelligents. Et Aaron Maiden, ben c'est du beaucoup, beaucoup Steve Harris qui est en arrière des textes pour ce qui est de Maiden. Mais pour ce qui est de Rush, c'est beaucoup Neil Peart. Neil Peart aurait pu gagner sa vie avec en écrivant de la musique, tout simplement, en écrivant des textes, hein, comme l'a fait, mettons, Bernie Taupin. Lui, bon, lui, c'était exclusivement pour Elton John, mais il y en a qui le font pour plusieurs artistes. Et il y en a qui sont bons là-dedans, qui chantent mal et ils gagnent leur vie très, très bien à part de ça. Là, ils viennent millionnaires, surtout si la chanson devient un grand hit. Ils vont vivre de ça jusqu'à la fin de leur jour, là. Et Neil Peart, ben, il avait cette chance-là. Mais oui, il avait il était un plus grand amateur aussi de bolide, mais aussi de batterie, ça c'est certain, c'était sa grande passion. Et aussi, ben, c'est ça, c'était avec Rush qui a fait sa marque et est reconnu peut-être même, ben, sûrement, fort probable, le plus grand batteur de l'histoire de la musique. Et c'est drôle parce que, tu sais, ils se sont dit, ah, ça serait qui le meilleur guitariste? T'sais, bon, en partant, j'aime pas faire des comparaisons. J'aime pas dire un est meilleur qu'un autre. Tu sais, au point qu'ils sont rendus, là, yeah, c'est tout des kings, là. Tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire plus après? Qu'est-ce que Neil Peart a plus qu'un autre? Mais quand on y va avec les meilleurs claviéristes, on peut sortir 50 noms, hein. Ah, lui, c'est le meilleur. Ah, non, lui, c'est lui. La même chose pour les guitaristes, la même chose pour les batteurs, et même aussi les chanteurs, hein. C'est ça. Et, par contre, les drummers, c'est ça qui est hallucinant. C'est que, lorsqu'on parle des meilleurs batteurs de l'histoire de la musique, ben, les experts, n'ont pas 50 noms à dire. Il n'y a qu'un seul nom, Neil Peart. Et oui, il y en a d'autres qui vont sortir du lot, mais on va sortir Portnoy, on va sortir puis de Chris, John Bonham, Keith Moon et plusieurs autres noms. Mais c'est tellement, je trouve que c'est tellement une grande injustice faire des comparaisons. Ouais, lui, c'est le meilleur bassiste de tous les temps. Ah, ouais, mais c'est parce que qu'est-ce que lui a de plus que l'autre qui est aussi bon puis qui a eu autant de succès puis tu sais qui fait des beaux solos puis il y a rien, tu sais, lorsqu'on me parle moi j'ai toujours dit bon Neil Peart, oui, on peut dire que c'est le meilleur batteur de tous les temps parce que les experts s'entendent là-dessus, puis ça vient pas de moi. Qui suis-je pour décider ça, tu sais? Je suis pas un expert, là. Pour ce qui est des bassistes, ben, la seule chose que je peux dire, bon, c'est peut-être c'est mon côté chauvin, mais bon, il y en a tellement des bons bassistes, là, dans l'histoire de la musique, il y en a tellement eu. Sauf qu'il y a Gene Simmons de Kiss, lui, qui ressort du lot. Pas parce qu'il joue mieux que les autres, non. C'est à cause du nom, à cause de toute l'image de Kiss autour de lui, ben c'est ça qui fait qu'il va ressortir le plus, là, tu sais. Le guitariste, le meilleur, c'est dur à dire, tu sais. Là, c'est vrai que, est-ce que, tu sais, bon, là, t'as des tu peux pas. Oui, Eddie Van Halen était très, très, très original. Les solos de Joe Satriani, Angry Manstein. Et là, j'en passe. Et on peut pas déterminer un meilleur que l'autre, là. Donc, c'est vraiment chauvin lorsqu'on dit, ah, oh, lui, c'est le meilleur, puis c'est certain, on dira pas, un band qu'on aime pas, on dira pas, ah, oh, non, lui, c'est le meilleur guitariste. Oh, ouais, il est meilleur que celui que j'aime au bout, là, tu sais. C'est, souvent, on n'a pas tendance à faire ça, t'sais. Très peu de gens vont faire ça. C'est certain, comme je viens de vous le dire, t'sais, tout le monde sait que je suis un fan de Kiss. C'est sûr que pour moi, Gene Simmons, il en ressort du lot à cause de sa personnalité. Mais vous allez me dire, c'est pas une personnalité qui fait que tu vas être un meilleur musicien. Non. C'est certain, tu sais, en partant, tu sais. Donc, ça marche pas, mon affaire, là, tu sais. Oui, ben, que ça marche pas. Non, on peut pas établir, tu sais, les meilleurs chanteurs. Oui, OK, on parle beaucoup de Robert Plant parce que son filet de voix est incroyable. Ah, il est incroyable. Mais, il y a des chanteurs, là, aujourd'hui, là. Tabarouette, esprit, c'est incroyable, là, tu sais, qui vous donne des frissons, puis on peut pas le déterminer. Puis le même chanteur que, le même chanteur qui va donner des frissons à un, ne donnera peut-être sûrement même pas aucun frisson à l'autre, à une autre personne. Et c'est tout à fait normal, ça c'est la nature qui est comme ça, tu sais, on peut pas. Donc, quand t'es rendu professionnel, t'es rendu où t'es rendu, je pense que après ça, là, tu sais, c'est seulement du second guessing, tout simplement, de passe-cours. Non, parce que ça me fait rire des fois lorsque je vois des gens faire des sondages à savoir oui, est-ce que ça c'est meilleur que ça? Puis hey, ça dépend des goûts. Je voyais un sondage l'autre fois, c'était quoi, là? Qu'est-ce qui a été plus grand, Alice Cooper ou Kiss? Non, mais, qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi, tu sais, bon, c'est sûr, mon cœur balançait, mais sauf que Alice Cooper, il anime ici, puis je suis un grand fan de Kiss. Mais dire un est meilleur que l'autre, non, les deux ont été différents, tu sais. C'est de comparer les pommes et les oranges, dans le fond, tu sais, c'est ça. Ah hey, oui, ça avait un petit son progressif avec Rush, on va rester un petit peu dans le même thème. Pourquoi pas, oui, on va y aller avec Genesis, oui, Throwing It All Away. Ben oui. À l'époque de Phil Collins, ouais. Si vous écoutez, Radio X, justement, on va parler de la période là, de progressive des années 80.
Calling after me. So we're on the way. So we're on the way. Don't want no money, don't want no bread. No. c'est bon.
C'est comme ça, ça termine l'album Machine Head de Deep Purple, sorti en mars 1972, effectivement. Tout un album, hein. Machine Head, ça a été un des grands classiques de l'histoire de la musique, un des grands classiques du heavy metal. À l'ouverture, on retrouve le classique, encore un classique, mais c'est ça, Machine Head, c'est ça, Deep Purple, Highway Star. Quelle chanson incroyable! Bien entendu, après ça, ben, on retrouve sur la face B du 33 Tours, Smoke on the Water, hein, qui est devenu, je pense que tout le monde, c'est à peu près une des premières chansons qu'on a appris à jouer à la guitare. Ça a été, c'est un grand classique de l'histoire de la musique. Tout un riff, un des riffs les plus populaires, un des plus gros riffs de l'histoire de la musique, je crois, hein, Smoke on the Water, là. Le début, on a aussi Space Rockin' et bien sûr Lazy Never Before, ça a été une autre excellente chanson. Pictures of Home aussi, excellente pièce. Pour ce qui est de Smoke on the Water, et ça c'était à un moment donné, le groupe était à Montreux en Suisse. Et il y avait le même soir Frank Zappa, les deux partageaient la scène. Et ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, le feu pogne. Il y a un incendie dans c'est un casino là, en même temps. Là. Donc, le feu pogne dans le casino. Et là, on dit à Frank Zappa, écoute, est-ce que tu peux faire évacuer les gens calmement, dire aux gens là, de sortir parce que là, il y a un incendie, il faudrait que les gens sortent. Là, t'sais. Frank Zappa, il dit, ouais, il n'y a pas de problème, je vais aller annoncer ça. Va pas dire ça à Frank Zappa, la dernière personne au monde, il faut dire ça. C'est à Frank Zappa. Donc, là, Frank Zappa, il est là, puis il est sur scène, il dit j'aimerais faire une annonce à tout le monde très importante. Veuillez suivre ce que je vais vous dire, c'est très, très, très important. Au feu! On va tous mourir! On va tous brûler! Sortez tous d'ici! Au feu! Mais là, il n'y a personne qui le croit, tout le monde part à rire! Parce que c'est Frank Zappa! Ben oui! Va pas dire ça à Frank Zappa! Faut-tu s'imaginer là, que Frank Zappa va être solennel en avant, puis oui, excusez-moi tout le monde, vous avez des sorties d'incendie ici, on a un incendie en ce moment, veuillez sortir s'il vous plaît, et on va se reprendre pour le show, merci, bonsoir, prenez immédiatement tout de suite les sorties, c'est une urgence. Et, pensez-vous vraiment que Frank Zappa va faire ça? Ben non! Frank Zappa, il a crié au feu, puis il a fait peur à tout le monde, et puis là, mais il a pas fait peur à tout le monde, tout le monde est resté. Ben oui, il a fallu que les autorités de l'hôtel arrivent et disent aux gens, « Voyez, grouillez-vous, là, parce que ça brûle, là. » Et c'est comme ça que les gens sont sortis. Mais là, vous allez dire, « OK, le lien avec Smoke on the Water, c'est quoi? » Bon, OK, à côté de... Parce que là, il y a l'incendie, puis là, t'as Frank Zappa, puis les gars de Deep Purple, puis la gang à Frank Zappa, sont là, puis ils regardent l'incendie, puis là, les gars doivent sûrement triper, en train de fumer un joint, puis « Ah, des bonnes capoteries, ça, merde. » Et sauf que là, à un moment donné, ben c'est ça, il y a un lac à côté. À côté du casino, il y a un lac. Et vous ne voyez pas avec l'incendie, puis là, ça fait une boucane sur l'eau, hein, vous me voyez venir, hein? Ben oui, Smoke on the Water. Mais ça vient de là, c'est inspiré de cette histoire-là, avec Frank Zappa, la pièce Smoke on the Water. Donc, c'est ça. Et puis, le plus drôle, c'est que ils ont enregistré pas tellement loin, c'est à l'hôtel des Alpes Grand Hôtel, c'est à Montreux en Suisse, ils ont enregistré la chanson en plus à cet endroit-là, peut-être pour rendre hommage en même temps, tu sais, peut-être pour rendre hommage, là, mais c'est ça, là, c'est dans les Alpes Suisses, là, un très 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 beau coin, soit dit en passant, là. Si vous allez en Suisse, là, allez à Montreux, de toute façon, il y a des festivals de musique qu'il y a là, c'est ça, c'est le lac Léman. Donc, quand on parle là, du fameux lac en question, c'est le lac Léman en Suisse. C'est ça, c'est pas tellement loin de Gruyère, c'est quoi donc? Lausanne. C'est pas tellement loin de Lausanne. Et à l'autre bout du lac, c'est quand même un long lac, là. T'sais, c'est un lac qui fait un croissant. Et ça commence justement à Montreux. Et à l'autre bout complètement du lac, c'est la ville de Genève.
Donc, c'est ça. Là. Si vous allez en Suisse, là, allez faire un tour à Montreux. Ça vaut vraiment la peine. Donc, oui, effectivement, notre portion heavy metal. Mais on va continuer avec du heavy metal. Oui, parce que dans le temps, on appelait ça du heavy metal. Et cette fois, ben, c'est avec Kiss de l'album Harder Than Hell. Oui, Harder Than Hell, qui fait partie des trois premiers albums de Kiss, qui est l'album... numéro 2, deuxième album de Kiss après l'album éponyme. Et l'enregistrement, c'était mauvais. Il n'y a pas eu de mastering du tout. C'est incroyable comment ça a été mauvais. L'enregistrement, là, c'est de l'album éponyme, On Touch and Hell. Et même Dressed to Kill, c'était moins pire. Mais On Touch and Hell, il n'y avait pas eu de mastering, là, tu sais. C'était vraiment comme mauvais comme son. Et c'est la raison pour laquelle que la création de l'album live a existé. Parce qu'on voulait qu'on entende les chansons d'une autre façon. Mais quand même, ça fait partie de chambre de l'époque. T'sais, aujourd'hui, un groupe ferait ça, là, puis pas le mastering, ça serait un scandale. Ça serait un scandale aujourd'hui. Mais à l'époque, ça faisait partie de chambre. T'sais. Là, on écoutait, on disait, coudonc, c'est pas une même voix. T'sais. Les voix sont différentes. Surtout dans cet album-là, Harder Than Hell. T'sais, Paul Stanley n'est pas reconnaissable du tout, et c'est à peu près la même chose. Donc, How the Way, ben, c'est avec Gene Simmons, mais c'est surtout Peter Criss qui chante dessus. C'est une des bonnes chansons de l'album Harder Than Hell. Très bonne chanson. How the Way, donc, voici Kiss sur RadioNostalgie.ca. J'avais dans la tête la chanson Mainline et qui est interprétée par Peter Criss. Donc c'est ça, c'était carrément ça, mais je me suis trompé. Alors je vous parlais que Peter Criss, j'avais dit Jane, mais je sais pas pourquoi, tu sais, j'avais sorti Peter Criss, Mais c'est Mainline, c'est avec le Chris qui chante. Donc, All the Way, c'est 100% Gene Simmons à la voix. Donc, excusez-moi, hein, c'est une honte de ma part me tromper comme ça dans quelque chose où que je suis supposé de connaître sur le bout de mes doigts, surtout cette époque-là de Kiss, là. Ah, on peut se tromper. Ben ouais, tout le monde peut se tromper. Hein, c'est ça qui fait la beauté de tout ça. Donc, pas besoin de m'écrire pour me le dire, là. Non, non, je le sais, c'est ça. Ah, ben écoute, j'ai le goût de faire l'amour. Feel like I'm making love avec les Dangerous Toys. Yeah! Époque de hard rock des années 80. Ouais. Oui, c'est un peu la passe.
Yeah.
Hager gets around.
Sammy Hager.
Yeah.
Le même Sammy Hager qu'on a connu avec Van Halen. Et ça, c'était son dernier hit qu'il y a eu avant l'arrivée de Sammy en remplacement de David Lee Roth, Dave, lorsque lui est arrivé, quoi, 85-86, et Why Can This Be Love, c'était en 1986. Je pense que c'est au début de l'année 86, alors ça a été l'envoi de justement David Sammy Hager, wow. Il avait quand même une carrière solo avant Van Halen, ou soit dit en passant, hein. Une très belle carrière, Can Drive 55, et qui a fait sa place dans le monde de la musique, bien entendu, David Sammy Hager, wow. Je veux parler absolument de David Lee Roth, moi là. Oh, ouais, donc c'est ça. Et ça fait partie de la trame sonore du film Footloose, s'il y en a qui sont intéressés, là. Le fameux film Footloose, il y a eu un paquet de bonnes chansons là-dedans, hein. Footloose, de la trame sonore, qui est sortie justement la même année, 1984, et on a fait beaucoup référence lors de lorsqu'il y a eu le confinement, en voyant, tu sais, plus le droit d'avoir du fun, plus le droit de sortir après 8 heures, tu sais, le fameux confinement qu'il y a eu. Et il y a eu quand même des gros noms qui ont joué dans ce film-là. Laurie Singer, il y a eu Kevin Bacon, également aussi Diane Weiss, Sarah Jessica Parker, tu sais, Chris Payne aussi, qui a joué là-dedans. Donc, il y a eu quand même des gros noms. Et puis, c'est ça, là. Bien sûr, la chanson de Kenny Loggins, Footloose, qui était la chanson de tête du film. Et également aussi Almost Paradise, qui a été écrit par Eric Kamen, là, tu sais, All By Myself, là, qui est décédé dernièrement, qui a été chanté par Mike Reno de Loverboy en compagnie d'Anne Wilson du groupe Heart. Également aussi, on retrouve Bonnie Tyler, on retrouve Salamar, oui, avec Dancing in the Street, in the Sheets plutôt. Également, bon, c'est ça, Sammy Hager, bien entendu, qu'on a retrouvé là-dessus. Une trame sonore qui a marché quand même énormément, effectivement, qui s'est retrouvée même au sommet en Autriche, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Suisse. Ça a été très fort, 6 fois platine au Canada. Donc, c'est ça. C'est pas seulement que le film qui a marché, mais aussi, oui, et comme je vous disais, on a comme remis Footloose à la mode lorsqu'il y a eu la COVID avec les confinements et ainsi de suite, là. C'était carrément ça, là. Tu sais, lorsque il y avait un gouvernement qui était très fort sur la répression, ben, un peu comme le Québec, ça a été le cas. Bon, ben. On faisait beaucoup référence avec le film Footloose. Donc, tiens, pourquoi pas, on va rester. On était dans les années 90 avec Dangerous Toys. On va retourner dans les années 90 pour le fun. Ah ouais, on est game. Ah ouais. Avec Sugar Ray, voici Fly.
Ladies, all nice and decent, slip the curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray riding through. One man tell a man she have been intoxicated. But her love high, man like a genie. Put a call with a fly. Some man say a virgin to me. I beg her, give it the first try. So the water come in. I feel the world. Every
Glass Tiger du néo-romantique canadien de Newmarket en Ontario. Et ils ont quand même eu un Grammy Juno's en 1986 avec cette pièce-là. Bon, Don't Forget Me. C'est quoi dans l'autre chanson? Don't Forget Me, ouais. When I'm Gone, qui avait sorti aussi et qui fait partie de l'album The Thin Red Line. Et ça a été le début de l'aventure de Glass Tiger. Personnellement, j'ai jamais été un fan du groupe. Hein? Non. Tu sais, ça a été... Non, j'ai jamais été fan du groupe. C'est pas un style de musique qui m'attirait tellement. Mais bon, je leur enlève à rien. Là. Ils ont gagné des Junos, même aux États-Unis. Ça s'est vendu énormément, Glass Tiger. Donc, je dois reconnaître que, oui, effectivement, le band a été très important pour le pop rock canadien. Oui, on peut dire, là, parce que c'était pas du gros rock quand même, là. Mais personnellement, j'étais pas un grand fan. Donc, il y a pas beaucoup de choses que je peux dire sur Glass Tiger. Et on s'en va. Oui, entre les Beatles et Aerosmith, il y a eu Come Together, chanté par Delbert McClinton. Ouais. Peut-être pas de la fête, meilleure version de Come Together, sérieusement. Voici Delbert McClinton.
you and me, America's new bride to be.
Don't worry, babe, I'm safe and sound. Down in the dungeon, just Peaches and me.
C'est avec Queen, bien sûr. Ah, mais ça, moi, c'est mon album préféré, c'est vraiment le Sheer Attack. Vraiment cet album qui est rock, qui est sorti en 1974. Si ma mémoire est bonne, c'est le troisième album de l'histoire du groupe. Mais cet album-là, là, c'est vraiment là, du gros rock, même hard rock, et à la limite même du métal pour l'époque. Là, parce que hey, on retrouve aussi Stone Cold Crazy dans cette pièce-là. Là. Killer Queen, on retrouve In the Lap of the Gods. C'est vraiment là She Make Me aussi, donc bien sûr Now I'm Here qui fait partie des grosses tunes. C'est un album qui sonne beaucoup plus rock de ce qu'on était habitué, hein, puis même que ça, à la limite on pourrait rentrer ça dans le heavy metal là, tu sais, comme Stone Cold Crazy, ça y a pas de doute là-dessus. Et non, sérieusement, c'est tout. Oui, je sais que plusieurs vont parler des albums bon où on retrouve Bohemian Rhapsody, mais personnellement je préfère le Queen. On dirait que le groupe se laissait aller en plus là. Le groupe se laissait aller. On sent qu'il y a un petit quelque chose qu'on avait à cette époque-là là, qui était encore meilleur. Et pourtant, on parle d'un des meilleurs groupes de l'histoire de la musique. Là. Quand on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission, un des groupes les plus talentueux de l'histoire, des groupes les plus talentueux de la musique, meilleur guitariste, meilleur chanteur. Et dans ce groupe-là, peu importe le membre, là, c'est des génies de la musique, là, que ce soit Brian May, Roger Daltrey, bien sûr, Freddie Mercury, qui est une des plus belles voix de l'histoire de la musique. On se trompe vraiment pas. Vraiment un grand groupe de musique. L'autre groupe que je vais vous présenter, il est moins grand, mais ils ont fait partie quand même de l'histoire du hard rock au début des années 70. Ils étaient là. C'est Slade, bien sûr, qui lui, on l'a connu, bien entendu, avec Command Feel the Noise. Il y a aussi The Journey and the Center of the Heart qui avait sorti. Mais là, cette fois, on va écouter Take Me Back Home. Yeah. les premiers pas du hard. On appelait ça du hard rock, oui, puis non, c'était du heavy rock dans ma tête, là. Maudit, c'est bon. Ah, ça donne un coup de la tête son dans le monde. L'animateur de radio, c'est plus la fermée. À la maison, on s'en va à la Cadillac, la Pink Cadillac, et voici la
Pink.
kid, I'm ready to fight. I've been looking for my baby.
Ravers, ça fait un bout d'entendre ça. Ouais.
Boom, boom, Out God the Lights, bien sûr. Sorti en 1979, et que ça sonne rock and roll. Moi, j'aime ça. Hein. Un son comme ça, là, moi, là, je trippe. Je trippe vraiment. Lorsqu'on arrive, on sort du rock and roll comme ça, puis tu sais, ça va te chercher là, d'un trip, et puis t'as le goût après ça. Tu sais, tu files pas, là. Moi, j'ai toujours dit la meilleure dose pour... non, c'est pas des pilules pour... si tu files pas, il y en a qui vont prendre des Red Bulls, ils vont prendre du café, malgré que ça remonte pas tellement de morale. Mais tu sais, pour se donner un boost, là, le rock and roll un peu à la Pat Travers ou le punk. Le punk, là, est le meilleur remède, là. Non, parlez-moi pas de pilules pour être plus en forme, là. Le punk, là, vous écoutez du punk, là. Ou dans le style un peu Frank Marino, Pat Travers, tu sais, ça remet en forme. Donc, c'est en 1979. On a une autre portion musicale qui va s'en venir un petit peu plus mollo, un petit peu plus... ouais, un petit peu... on va toucher un petit peu les années 60 en même temps. Donc, on commence la portion. La portion, on la commence avec Indian Lake. Ça, c'est la chanson Indian Lake. Et la pièce, c'est The Call Seal.
You know something, Bill? I like you. You know something, Bill? I said I like you.
What do you want, Sue?
Oh, nothing. I just like you, that's all.
Want to borrow my albums?
No, nothing like that.
Hey, you want something?
No.
You did something wrong and you don't want me to tell Mom?
No.
Then what do you want, Susan?
Oh, nothing. I just came over to say I like you, I mean.
All right. You like me, and I like you, too.
Oh, really?
Oh, sure, Susan. I know I like you a lot.
But how come you forgot my birthday?
Deal. People live on the hills for a hundred of the mama. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew, she could make me happy. Say hello.
Diane Warwick Heartbreaker.
Hey, ça, c'était une des voix des années 80, début des années 80. Personnellement, ça me rappelle un peu ma jeunesse. On l'entendait dans... Ben, elle a eu quelques hits au début des années 80. Un gros hit qu'elle a eu, là, c'est « That's what friends are for ». Elle était dans la chanson « Imaginez », elle, Diane Warwick, en compagnie de Gladys Knight, Stevie Wonder et Elton John. Donc, tout un quatuor qu'on a eu. Également aussi, elle a fait une chanson aussi avec, toujours avec Gladys Knight et Patti LaBelle, la pièce Superwoman. Ça a été vraiment là une des grosses voix qu'on entendait souvent dans les stations de radio au début des années 80. Mais elle roule sa bosse là depuis quoi les années 60, là, un peu à la même époque de la pièce qu'on a eue juste avant, celle de Mary Wells, My Guy, qui est un grand classique de la musique pop également, qui date de 1964. Donc, c'est ça. Et on a commencé la portion musicale avec The Cow Seals et la pièce Indian Lake, sortie en 1968. Oh, on avait une petite période un petit peu plus pop, là, de ce qu'on a eu en comparatif, de ce qu'on a eu de tout au long de l'émission avec du Rush, du Kiss, Dangerous Toy, Sam Hager, Deep Purple et ainsi de suite. Et même avec Queen, une pièce assez hard rock à part de ça, Now I'm Here. On va se laisser maintenant, ben, comme dernière chanson, une petite pièce en français, bien sûr. Oui, ben, c'est avec Emmanuel. Ça date quand même de très longtemps. Ça date de plus que 50 ans même. Ah, oh, c'est encore jeune, ça. Ben oui. Donc, c'est encore nouveau. Ben oui. Donc, c'est ça, c'est dans les débuts des années 70. Emmanuel qui nous chantait « Le monde à l'envers ». Bye-bye tout le monde!